Quelques mots ce matin pour vous sur la valeur inestimable de l'équipe. La valeur inestimable de l'équipe. Et quand je parle de l'équipe, je parle de vous. Je parle de vous. S'il y a une chose que j'ai appris en 37 ans de ministère pastoral, c'est que le ministère pastoral est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Et ne sous-estimez jamais l'importance de qui vous êtes. Vous, chacun de vous, là, sans exception. Car vous faites partie de l'équipe. Nous avons deux, trois termes pour décrire les gens qui viennent à l'église le dimanche matin, semaine après semaine. On peut les appeler les fidèles, on les appelle la congrégation, on les appelle le peuple, on les appelle l'église, on les appelle les membres. Mais selon moi, le meilleur terme, c'est l'équipe. Nous faisons partie d'une équipe. Et chaque église et chaque pasteur a besoin d'une équipe. Une équipe en santé. Car la santé de l'Église dépend sur la santé de l'équipe, de sa congrégation. La force de l'Église dépend sur la force de la congrégation. La spiritualité, la vie, la dynamique, c'est vous. Quand quelqu'un dit, bien, cette Église est morte, bien, c'est pas l'Église qui est morte, c'est les gens qui sont morts. Right? Hein? Quand les gens vont dire, oh oui, ça c'est une église ennuyante. Ce n'est pas l'église qui est ennuyante, c'est vous qui êtes ennuyante. Dans le sens que vous êtes l'église. Sur la santé de l'église, la dynamique de l'église, la vie de l'église, la force de l'église, la puissance de l'église, bien, l'église c'est les gens à l'intérieur de l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Alors la force et la dynamique de cette église, bien, c'est vous. C'est vous. Nous. Alors, la santé de l'église dépend sur la santé de l'équipe. Et nous n'aurions pas d'église du tout. Si on n'aura pas des responsables, des bénévoles, des serviteurs, des leaders, des personnes qui s'impliquent, qui donnent, comme vous, et ne sous-estimez jamais l'importance de l'équipe. Vous pouvez sauver la vie d'un pasteur, littéralement, littéralement. Remarque cette histoire ici en Nombre chapitre 11, quand Moïse, le pasteur d'un méga church dans le désert, il passe un moment difficile, il est un peu découragé, puis là, il fait cette prière devant Dieu. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel, « Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur, combien sont heureux que Dieu ne répond pas toujours oui à toutes nos prières? Right? Dieu ne dit pas toujours oui. Parce que Moïse a littéralement dit, enlève ma vie. Parce que je me trouve dans la misère, l'incapacité. C'est trop difficile d'être leader. Parce que quand on dirige, surtout quand on dirige dans l'Église, ben on dirige des bénévoles. Hein? C'est pas tout le monde qui écoute. Quelqu'un a déjà dit, le ministère pastoral, c'est comme marcher dans un cimetière. Tout le monde est sous toi, mais personne ne t'écoute. Alors, dans le fond, on est le responsable, mais ce n'est pas tout le monde qui écoute. Et Moïse, il passait un temps difficile, puis il dit, ben enlève ma vie, je ne peux plus porter le poids. Alors, Dieu répond à sa prière, pas par enlever sa vie. Puis, qu'est-ce qui est remarquable, c'est qu'après qu'il fait cette prière-là, Dieu ne dit pas, correct, je t'enlève ta vie, mais il n'a pas non plus enlevé son charge. Il n'a pas dit, correct, je vais enlever ton leadership, je vais enlever tes responsabilités, je vais enlever ton charge. Non. Dieu répond à sa prière par lui donner une équipe. L'Éternel dit à Moïse, correct, assemble auprès de moi 70 hommes, amène-les à la tente d'assignation, le lieu de prière, et qu'ils se présentent avec toi. Et l'Éternel descendit dans la nuée, et prit de l'Esprit qui était sur lui, et le mit sur le 70 anciens. Au lieu d'enlever sa vie, il lui donne une équipe. L'équipe a sauvé la vie de Moïse. Alors, une équipe peut sauver la vie d'un pasteur littéralement. Il donne à Moïse, en réponse à sa prière, une équipe remplie de l'Esprit. Et Moïse est tellement reconnaissant pour l'équipe qu'il a dit ceci un peu plus tard. Parce que là, pour la première fois, il y a d'autres personnes qui s'impliquent dans le ministère. Et là, il y a Moïse, puis il y avait son assistant Josué. Et Josué était habitué que Moïse fait tout. Et là, Josué, l'assistant pasteur, il est un peu inquiet parce que là, il y a d'autres personnes qui s'impliquent, d'autres personnes qui dirigent, d'autres personnes qui parlent pour Dieu puis communiquent et tout ça. Puis là, Josué est un peu nerveux puis il dit à Moïse, « Hey, il y a d'autres personnes qui font le ministère. C'est pas rien que toi. Il faut les arrêter. » L'assistant pasteur. Mais là, en réponse à ça, Moïse dit, « Es-tu jaloux pour moi? » Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, ça veut dire de personnes qui sont remplies de l'Esprit puis communiquent pour Dieu et dirigent pour Dieu. Et veuille l'Éternel mettre son Esprit sur eux. Son réponse à Josué qui croyait que rien que Moïse est qualifié pour porter le fardeau et faire le ministère, Dieu exauce sa prière et lui donne une équipe. Et Moïse est tellement reconnaissant, il dit, j'aimerais laisser faire les 70 autres, moi j'attends le jour où tout le monde puisse faire partie de l'équipe afin de travailler ensemble. Est-ce que la prière de Moïse a été exaucée? Cette prière-là, quand il dit, je prie pour le jour que le Seigneur met l'Esprit sur toute l'équipe, sa prière a été exaucée 1500 ans plus tard, le jour de la Pentecôte, comme décrit en Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit a descendu sur l'Église afin de créer une communauté de personnes prêtes à préparer par Dieu pour faire le ministère ensemble. Nous sommes la réponse à la prière de Moïse. Il a dit, moi je vois un jour que le Saint-Esprit descend sur tout le peuple de Dieu afin qu'ensemble nous faisons le travail du ministère. Alors, nous voici, Seigneur, on est la réponse à la prière de Moïse. Nous avons tous la puissance du Saint-Esprit sur nous, afin que tout le monde fait le travail de l'Église ensemble avec les pasteurs. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Vous êtes la réponse à la prière de Moïse. Car personne ne doit porter le fardeau, ni le travail seul. La semaine prochaine, on met une petite annonce avant la réunion. Fermez vos cellulaires, s'il vous plaît. Ça veut dire, Céline m'a donné 10 minutes pour prêcher, puis elle a mis l'alarme. Elle a dit, je te donne 10 minutes, après l'alarme sonne, là, puis c'est assez, là. Le message est compris. Personne ne doit porter le fardeau, ni le travail seul. Alors, nous sommes la réponse à la prière de Moïse. Alors, quelles sont les qualités nécessaires pour être un membre d'équipe? OK, je suis membre de l'équipe. J'ai le Saint-Esprit sur moi pour faire partie de l'équipe. Quelles sont les qualités nécessaires pour être bénéfique et utile? Mais il y en a trois, selon moi. Prière, présence et participation. C'est pas plus compliqué que ça. Prière, présence et participation. D'abord, la prière. Pourquoi? Parce que la prière nous prépare spirituellement pour faire de nous une équipe spirituelle. Dieu n'a pas donné à Moïse juste n'importe qui. Il les a donné une équipe sur qui il y avait son esprit, son onction, le Saint-Esprit. Alors, nous voulons prier pour inviter le Saint-Esprit dans notre vie, pour développer la communion avec l'Esprit, parce que nous voulons pas être seulement des membres de l'équipe, mais on veut être des membres de l'équipe spirituelle, en qui le Saint-Esprit agit, les gens sur qui l'Esprit de Dieu repose, en qui l'Esprit de Dieu agit et par qui l'Esprit de Dieu communique et travaille, comme avec Moïse. Alors, la prière, combien sont prêts à inviter le Saint-Esprit? Saint-Esprit arrive en moi, sur moi, agit à travers de moi, parce que je veux faire partie de cette équipe prière, parce qu'on va être une équipe spirituelle. La deuxième chose, c'est la présence, juste la présence. C'est d'être présent, c'est d'être là, c'est d'être disponible. La spiritualité est importante, mais aussi la disponibilité. Juste d'être là, présent. Non pas la perfection. Vous remarquez dans les trois P que j'ai donnés, prière, présence, participation, je n'ai pas dit la perfection. Nous n'avons pas besoin de la perfection, mais nous avons besoin de progrès, la participation. La présence. La vie de Jésus et les histoires bibliques nous apprennent que Dieu ne choisit pas toujours les meilleurs. Il y en a qui vont dire, ben moi je suis disqualifié, je ne suis pas parfait. Hein? Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la mesure. Oui, mais l'histoire biblique, la vie de Jésus puis la vie de l'Église nous enseigne que Dieu ne choisit pas toujours les meilleurs pour être son leader, pour être à son service. Dieu n'est pas à la recherche des élites. Ni les parfaits, ni les plus grands, ni les plus beaux, ni les plus intelligents, ni les plus talentueux, ni les plus doués. Qui veut dire quoi? Il se sert toujours les gens les plus stupides, laids, niaiseux et petits? Non. Non. Il se sert des gens disponibles. Ceux qui disent tout simplement, me voici, envoie-moi, sers-toi de moi. Dieu ne cherche pas la perfection. Les disciples étaient loin d'être parfaits, mais ils ont répondu oui à l'invitation de Jésus. Ils étaient disponibles. Merci Seigneur pour les membres de l'Église qui sont juste disponibles. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ceux qui sont prêts à dire, je suis peut-être pas le meilleur, mais pourquoi pas moi? En 1980, mon père, vous connaissez le pasteur Samuel Lecomte, il y en a beaucoup qui le connaissent, il avait tellement confiance en moi et Pasteur Claude, quand on a quitté pour l'école biblique. Moi et Pasteur Claude, le pasteur principal de l'église Nouvelle Vie, était converti dans l'église de mon père, puis on a quitté pour l'école biblique ensemble. On était des jeunes hommes, puis on a répondu à l'appel de Dieu pour aller à l'école biblique aux États-Unis ensemble. Puis juste avant qu'on quitte pour l'école biblique, mon père, le pasteur Samuel Lecomte, nous a laissé avec ses paroles. Juste avant qu'on embarque dans la voiture pour quitter pour l'école biblique aux États-Unis. Moi, j'avais 17 ans, Pasteur Claude avait 19 ans. Mon père a dit, « Si jamais vous vous faites expulser de l'école, continue vers le sud, ne reviens plus ici. » On appelle ça des paroles de vie. Merci, Dad. Il nous envoyait plein de confiance. Il dit, « C'est la dernière chance pour vous deux. Vous faites expulser de l'école biblique, là, ne reviens plus ici, va vers le sud. » Alors, plus qu'une fois à l'école biblique, moi et Pasteur Claude, on a sorti la carte géographique pour nous dire, « Où allons-nous? » Floride, peut-être, Georgie, il faut aller vers le sud. Parce qu'on était loin, loin, loin d'être les personnes idéales pour le ministère. On était loin d'être des candidats idéaux pour le ministère, des candidats pour le ministère pastoral, mais on était là, et on est encore là, malgré nos imperfections, puis on a demeuré là pendant 40 ans, et crois-moi, quand on est juste là, le Seigneur peut faire quelque chose avec nous. Si on n'abandonne pas, on quitte pas, on lâche pas, malgré les défaites, les déceptions, les hauts, les bas, les imperfections, les erreurs, demeurez là. Et quand on est là, puis on ne quitte pas, le Seigneur peut faire des grandes choses. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il faut juste être là. Comme nous a dit le grand théologien Woody Allen, 90% du succès, c'est juste d'être présent. 90% of success is just being there. Hein? Puis il a raison. En passant, ce n'est pas un grand théologien, là, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et comme je dis souvent, si ça ne serait pas nous, qui? Qui? Si ce n'est pas vous et moi, qui d'autre? Qui d'autre va faire le ministère ici? Qui? Pourquoi pas nous? Alors, Seigneur, nous voici. Ici à Charlevoix, à la Melbaye, le 29 août 2021, nous voici, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Sers-toi de nous. Fais quelque chose avec nous. Nous voici disponibles. Remplis-nous de ton esprit. Donne-nous les qualités nécessaires pour être membre de l'équipe utile. Rends-nous des personnes spirituelles disponibles, puis aussi des personnes actives. J'ai dit la prière et la présence, oui, mais ça prend aussi la participation. Soyons des personnes fidèles et fiables, à qui nous pouvons confier des tâches et des responsabilités. Il n'y a rien qui bénit un pasteur plus que des gens fiables, des gens qui participent, des gens qui donnent leur parole et respectent leur parole, des gens qui sont actifs, des gens à qui on peut confier des tâches, des responsabilités, des ministères, et qui vont le prendre et vont le faire, sont actifs, ils vont participer. Proverbe 26, ça dit, « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Hein? » Ça veut dire, ça c'est une autre façon de dire, « Tout le monde a des bonnes intentions, mais qui va le faire? Hein? Qui va le faire? On a tous des bonnes intentions. » Mais la personne fidèle, la personne fiable, est-ce qu'on va le trouver? Mais moi, je crois qu'on a trouvé plusieurs personnes qui sont ici à Charlevoix. Hein? Nous voici ici. On veut être des personnes fiables, fidèles, qui vont participer, sur qui l'équipe pastorale peut compter sur notre présence, notre parole, notre participation. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Hein? C'est une richesse pour une équipe pastorale. Il faut dire, je suis cette personne. Prêt à s'impliquer, donner, diriger. Parce qu'il faut un véritable travail d'équipe pour que l'Église Nouvelle Vie Charlevoix accomplisse la vision et la mission que Dieu les confie. Aujourd'hui, puis la semaine prochaine, puis la prochaine saison, puis le prochain chapitre et dimension de cette Église, Ça va prendre la prière, oui, mais ça va prendre aussi votre présence, puis ça va prendre votre participation. Alors, préparez-vous à être des serviteurs-leaders. Et ne sous-estimez jamais l'importance des ouvriers, des serviteurs-leaders dans le royaume de Dieu. Vous connaissez la prière de Jésus? Ça nous dit en Matthieu 9, « Alors il a dit à ses disciples, la moisson est grande, mais quoi? Il y a peu d'ouvriers. Priez dont le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, des travailleurs, des personnes actives dans sa moisson. » Alors, selon Jésus, nous n'avons pas un problème de puissance, nous avons un problème de personnel. Avez-vous remarqué, Jésus n'a pas dit, il n'a pas vu la grande moisson, puis il n'a pas dit, priez pour le feu, priez pour le réveil, priez pour la puissance, priez pour une réveil. Non, il a dit, priez pour les ouvriers. La moisson est grande, il y a tellement de choses à faire et à accomplir, mais nous n'avons pas un problème de puissance. Nous avons la puissance, nous avons le réveil, nous avons le feu, nous avons les dons. Ne priez pas juste le réveil, il dit, priez pour les ouvriers, priez pour les personnes qui s'impliquent, priez pour les personnes qui travaillent. Ce n'est pas un manque de personnel, c'est un manque d'ouvriers. Des faiseurs, des doers. Un jour, nous voulons entendre les paroles de Jésus. Hein? C'est quoi les paroles qu'on va entendre de Jésus? Bien fait, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Vous remarquez qu'il n'a pas dit bien dit. Bien cru, bien pensé, bien ressenti, mais bien fait, faites des participants. Alors, dans le ministère, nous n'avons pas besoin des spectateurs, on n'a pas besoin des cheerleaders, on a besoin des joueurs. Et en 37 ans de ministère, j'en ai vu des spectateurs. Les spectateurs, c'est ceux qui sont les spectateurs de l'Église, les spectateurs des réunions, les spectateurs de la prédication. C'est eux qui vont donner une note de 1 à 10 pour la louange ce matin, c'était un 6. La prédication, pas trop pire, c'était un 9. Cette semaine, c'est des spectateurs évaluateurs qui sont là, puis les spectateurs, mais c'est des spectateurs, c'est pas des joueurs. Mais on n'a pas besoin non plus des cheerleaders. Hein? Vous savez c'est quoi un cheerleader? Un cheerleader, c'est plus qu'un spectateur. Un cheerleader est là, puis il dit, « Yes, yes, t'es capable, ouais, 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 on est sur l'équipe gagnante. » Puis ils sont là pour applaudir, acclamer, « Amen au projet, oui, on peut faire ça, on veut faire ça, yes, go, 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 go. » Puis on les demande les impliquer, « Oh non, 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 pas moi, pas moi. » Mais c'est des cheerleaders. Ils encouragent, ils disent, « Rah, 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 ils sont heureux pour, mais ils ne participent pas. » Alors, j'en ai vu tout ça dans le ministère. Hein? On a les cheerleaders, puis merci Seigneur pour les cheerleaders qui nous encouragent. Merci Seigneur pour les personnes qui sont là quand même. Mais on a besoin des joueurs. On a besoin des joueurs sur le terrain. Des personnes qui donnent de leur temps, leurs efforts, leurs énergies, qui s'impliquent, qui font quelque chose. Et pour que cette église-là connaisse vraiment leur plein potentiel fleuri de toute la bénédiction de Dieu, malgré tout ce que vous avez vécu, la bénédiction et le progrès, puis la multiplication depuis des années, le Seigneur, je crois que le Seigneur a d'autres choses pour vous, une autre saison, un autre chapitre. Vous avez un jeune couple là qui accepte le défi de leadership pastoral. Vous avez toute une équipe Église Nouvelle Vie qui embarque avec vous pour le soutien et les ressources. Et le Seigneur veut que cette Église fleurisse et soit une bénédiction et un fort et brille dans cette région. Il veut multiplier la bénédiction ici avec un site ici et un site à Bain-Saint-Paul et avec des réunions, des petits groupes un peu partout et des œuvres sociales. Et une visibilité, puis une connaissance et une reconnaissance dans la communauté. Il faut pas juste des spectateurs et des cheerleaders, il faut des joueurs. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Come on, une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour les joueurs, the players, ceux qui s'impliquent. Il faut participer avec votre temps, avec votre énergie, avec vos efforts, votre implication, vos dons, votre argent, votre soutien. C'est l'apôtre Paul qui dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est très pratique, ça, hein? J'aime tellement cette phrase de Paul. Vous voulez avoir des fruits? Travaille. Hein? C'est pas trop mystique, ça, hein? C'est pas trop spirituel. Il dit, vous voulez avoir des fruits? Ben, il faut travailler. Le travail avant le fruit. Wow, OK. C'est pas trop profond, ça. Paul n'est pas trop spirituel et mystique ici. Il ne dit pas que le réveil va tout régler. Prie plus fort, plus souvent, plus intense. Non, il dit travaille pour avoir le fruit. Oh, il faut travailler à la prière, mais travailler à d'autres choses aussi. So, dans le fond, il faut semer la bonne semence afin de récolter le bon fruit. Alors, le secret d'une église efficace n'est pas rien que trouvé dans la vision, elle est trouvée dans l'exécution. Car la vision tout seul ne vaut rien. C'est Thomas Edison qui a dit « La vision sans l'exécution, c'est l'hallucination. Right? » Vision without execution is hallucination. So, la vision sans l'exécution, c'est l'hallucination. C'est facile d'halluciner des grandes choses. C'est facile d'halluciner multiplication et multisites et des âmes sauvées et un impact dans la région. C'est facile d'halluciner des rêves et des visions et des grandes bénédictions. On peut tout halluciner et rêver des grandes choses et imaginer des grandes choses. On peut tout parler des grandes choses. On peut tout prophétiser des grandes choses. Mais sommes-nous prêts à travailler pour des grandes choses? Sommes-nous prêts à s'impliquer, donner pour des grandes choses? Travailler ensemble vers la vision que Dieu nous a donnée. Alors, le rôle d'une église et des chrétiens à l'intérieur d'une église n'est pas rien que la vision, c'est l'exécution. Et l'exécution demande l'effort, le sacrifice, le dérangement. Ça exige des rencontres, des réunions. La discussion, la réflexion, la transpiration, le temps, l'argent, la prière, la patience, la persistance, rien que ça. Est-ce que vous êtes prêts? Hein? C'est tout ça. Le secret d'une vie efficace, d'une église efficace, c'est aussi le travail, qui dans le fond n'est pas un grand secret. C'est une formule qui existe depuis à peu près 6000 ans. Hein? C'est Jésus qui a dit, « C'est à force de peine que tu t'en tireras ta nourriture tous les jours. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Alors, pour obtenir notre pain quotidien, si vous voulez, pour obtenir les ressources humaines, financières et spirituelles nécessaires pour bien nourrir et bien diriger l'Église, il nous faut l'effort, la peine, la sueur, le travail. Comme nous disons souvent à l'Église Nouvelle Vie, le succès d'une Église est 10% inspiration et 90% transpiration. Hein? L'inspiration, c'est facile. C'est le 90% de transpiration, de travail et d'implication. Le pain, n'arrive pas par hasard ou par accident. Ni le réveil, ni la croissance. Je termine dans quelques instants. On va prier ensemble. C'est Charles Finney, le grand revivaliste là, des années fin 1800. Il a dit ceci. Un réveil n'est pas plus miraculeux qu'une récolte de blé. C'est quelque chose, ça. Si nous travaillons la terre d'une certaine manière, d'une certaine façon, selon les principes de l'agriculture, notre travail va produire un fruit. C'est quelque chose, ça, hein? Tout le monde pense que le réveil arrive d'une façon mystique, spirituelle, du ciel, tous les coups, comme ça. Il dit, le réveil n'est pas plus miraculeux qu'un un récolte de blé ou un champ de blé. So, quand vous passez là ici devant les champs de blé, les champs de maïs et tout ça de toutes sortes ici à Charlevoix, quand vous passez devant un champ de maïs, vous ne dites pas, « Wow, regarde ça! D'où ça vient, ça? » Hein? Le champ de maïs, waouh, c'est arrivé tout d'un coup. D'où ça vient? C'est fantastique. Non. On voit un champ de blé, puis on sait que, quelqu'un a travaillé, arrosé, semé, nettoyé, etc., etc., etc. Nous savons que le champ de blé, il y a du travail en arrière pour produire. Charles Finney dit c'est la même chose. Il dit le réveil, là, c'est pas plus miraculeux qu'un champ de blé. On sait qu'en arrière, la scène, là, hein, il n'y a rien qui arrive par hasard ou par accident. Arrière la scène, il y a l'implication, des rencontres, des placements, des rangements, on est présent, on est fidèle, on prie, on donne, ça coûte des scènes, on donne l'argent, on paye nos dîmes, on a des ressources, on est là, il y a du travail en arrière, selon les principes de Dieu, les principes bibliques, et le Seigneur bénit le travail, et avec l'onction de son Saint-Esprit, et il va honorer et récompenser le travail avec, justement, la multiplication et la bénédiction de l'Église. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Hein, c'est des principe de Dieu, il faut travailler pour porter le fruit. Wow! Et pensez jamais que le travail remplace l'aide de Dieu, le Saint-Esprit ou la grâce. Pasteur André, quand je parle de travailler, semer, implication, semer, il faut transmettre, les gens disent, on est sous la grâce. Il n'y a pas de travail, c'est la grâce. Tout ce qu'on a, c'est par la grâce, c'est un miracle, et ça arrive de Dieu. Ça n'a rien à faire avec nous, ça n'a rien à faire avec notre travail, c'est juste grâce à Dieu. Je vous dis, Pasteur Marc, vous remplacez la grâce par le travail. Bon, non, la grâce ne remplace pas le travail. La grâce soutient le travail. So, Il y en a qui m'ont dit, mais on est, le travail, c'est la loi, mais nous sommes sous la grâce. Comme si la grâce, ben, justifie la paresse. Je ne comprends rien. Regarde, qu'est-ce que l'apôtre n'a pas dit? C'est tellement bien dit, là. La grâce et le travail qui travaillent ensemble. 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Si on est d'accord avec ça. Je suis qui je suis. C'est par la grâce de Dieu, moi, l'apôtre Paul, le grand apôtre, implanteur d'église. Tout ce que j'ai accompli, je dis, waouh, Paul, c'est fantastique tout ce que tu as accompli. Puis qu'est-ce qu'il dit? Ben, je suis qui je suis par la grâce de Dieu, mais continue. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Sur l'apôtre Paul a dit, oui, c'est grâce à Dieu, mais je travaille fort, puis je travaille plus fort que toi-même. Hein, c'est ça qu'il dit. Je travaille plus fort que vous. Mais il dit, je suis que je suis par la grâce. Mais là, il continue. C'est fantastique. Mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Waouh, c'est bien dit ça. So, il dit, je suis qui je suis par la grâce de Dieu, mais ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Je travaille fort, l'apôtre Paul a dit. Mais, il revient encore à la grâce. Il dit, je suis capable de travailler fort, parce que c'est la grâce de Dieu en moi qui m'aide à faire le travail que je fais. Alors, peu importe, oui, on travaille, mais à la fin, toute la gloire est à Jésus, toute la gloire est à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne la grâce, les dons, les talents, la capacité, l'énergie physique, mentale, émotionnelle pour travailler fort comme nous travaillons. Alors, ne croyez jamais que la grâce remplace le travail. On travaille par la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu, nous avons un fruit pour le travail que nous faisons. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ça, c'est Paul, ça, qui décrit tellement bien l'élément du travail et la grâce ensemble. Merci, Seigneur, pour sa grâce sur cette Église. Hein? Sa grâce sur nous. La grâce de Dieu qui vous a donné un talent. Qui vous a donné quelque chose à donner, quelque chose à faire, une implication, un service, selon votre connaissance, votre arrière-plan, votre énergie, votre disponibilité, votre spécialité, votre passion. Il n'y a personne ici qui est exempt de cela. On fait tous partie d'un travail d'équipe. Chacun fait quelque chose par la grâce de Dieu. Alors, il faut demander la question. Seigneur, je ne veux pas. Moi, je veux participer dans la bénédiction de l'Église Nouvelle Vie Charlevoix dans les prochaines dimensions. Je ne veux pas être un spectateur ni un cheerleader, mais je veux être un joueur. Où est-ce que je peux jouer un rôle? Comment que je peux appuyer ce nouveau couple, jeune couple pastoral dans cette nouvelle saison de l'Église Nouvelle Vie Charlevoix? Qu'est-ce que je peux donner de plus? Est-ce que je soutiens financièrement? Est-ce que je donne les offrandes généreusement? Est-ce que je paye ma dîme? Est-ce que je donne mon temps? Est-ce que je me dérange? Est-ce que je me déplace? Est-ce que je suis prêt à apprendre peut-être un nouveau ministère, être formé pour quelque chose ou est-ce qu'il y a un besoin? C'est par la grâce de Dieu qu'on travaille, mais c'est sa grâce qui nous aide à travailler, à agir. Jésus soit toute la gloire. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Wow! On participe. On participe. Je termine avec ceci. Sans les leaders, les bénévoles, les hommes et les femmes qui s'impliquent, s'engagent et influent, il est impossible d'accomplir quoi que ce soit. C'est pour cela que ça nous dit en Proverbe, et on va avoir une prière dans juste un instant. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Puis en Proverbe, ça dit, si tu veux bâtir une maison, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut tailler les colonnes. Il faut mettre les colonnes en place. Hein? Une colonne, ça, c'est fiable. Ça dure. C'est là. C'est les colonnes qui soutiennent le bâtiment, hein? L'édifice. Puis il dit, quand on va bâtir quelque chose, il faut trouver les 7 colonnes. Pourquoi 7? Pourquoi 7 colonnes? Bien, 7, c'est le numéro de perfection, hein? Sur une autre façon, il faut trouver le nombre parfait de colonnes. Il faut trouver le nombre parfait de piliers. Il faut trouver le nombre parfait, de personnes qui vont être là, qui vont être équipées, qui vont être solides, hein, solides, hein, c'est ça, une colonne, hein, c'est un pilier, solide, hein, solide, soutien, tout. Mais c'est ce que ça prend. Puis moi, je dis en 37 ans de ministère, moi, je dis merci Seigneur pour tous les piliers dans les églises. Hein, on dit en anglais pillars of the church. Hein? Ceux qui sont là, ceux qui sont fiables, ceux qui participent, ceux qui donnent, ceux qui soutiennent. Puis il dit, pour construire quelque chose, il faut trouver le nom parfait. Que le Seigneur nous aide à avoir le nom parfait de leader, de colonne, de soutien, des gens qui soutiennent avec leurs paroles, l'encouragement, prière, don, participation, le nom parfait pour que le Seigneur peut construire tout ce qu'il veut construire. Hein? Le Seigneur a une vision pour vous, pour votre famille, pour votre église, pour votre région. Nous avons une vision pour cette région, cette belle région du Québec, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils méritent d'avoir une bonne église comme votre église est, l'église de la vie, de la louange, de l'adoration, le service, la fraternité, la communauté, l'œuvre du Seigneur. Puis le Seigneur veut construire sur qu'est-ce qui est là pour les prochaines dimensions, parce que le Seigneur n'arrête jamais de construire, hein, de donner la croissance, la prochaine saison. Alors ce matin, c'est très simple notre prière. C'est « Me voici ». On n'est pas parfait, mais on est là. On est disponible, on est désireux. On veut être là pour la prochaine dimanche. Alors nous voici, Seigneur. Mets ton Saint-Esprit sur nous comme qu'il est sur Julien et Élise et sur André et Céline. Et Seigneur, mets ton Esprit sur nous, l'Esprit de l'onction, donne-nous la grâce pour faire ce qui est nécessaire pour le prochain chapitre et la prochaine saison de l'Église. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce que je peux avoir le privilège de prier pour vous et avec vous ce matin? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et est-ce qu'on peut juste lever nos mains vers le Seigneur? J'entre juste dans un instant de louange, d'adoration devant le Seigneur. C'est dans le musée Holocaust à Washington, D.C., il y a un monument quand tu rentres qui dit « Tu ne seras pas une victime, tu ne seras pas un criminel, mais avant tout, tu ne seras pas un spectateur. » Ça veut dire qu'il ne faut pas juste qu'on soit un spectateur des choses qui prennent place dans notre société. Hein? Juste une victime de notre société, une victime de nos circonstances. Il ne faut pas juste qu'on soit un spectateur de tous les maux, de tous les malheurs, toute la confusion, toute la détresse, le suicide, la dépendance sur les opioïdes que nous avons aujourd'hui, le semble confusion et vide qui vit dans la société. Tout ça, malgré la prospérité, malgré la beauté, malgré l'apparence, là, on ne veut pas être des spectateurs. Et on ne veut pas être des victimes non plus. Nous voyons des personnes qui disent « on va faire la différence hein? ». Nos voisins, nos voisines, notre quartier, les membres de notre famille, on veut faire quelque chose. Juste si vous êtes à l'aise avec ça, levez vos deux mains pour le Seigneur et dites « Seigneur, me voici, c'est tout. » C'est aussi simple que ça.